donc avançons maintenant une autre phase de notre atelier aujourd'hui, c'est la partie théorique entre guillemets, qui j'espère va vous emmener vers plus de connaissances de votre propre fonctionnement. Cet fonctionnement qui fait en sorte que d'un côté vous pouvez être très clair par rapport à ce que vous cherchez et vous pouvez vous mettre dans des situations difficiles. Vous pouvez vous mettre dans des états d'esprit où cette bienveillance que vous connaissez bien, au moins intellectuellement, semble si loin. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Je vous ai donné une petite clé pour comprendre ce qui se passe, mais maintenant il faut que je vous explique d'où est-ce que ça vient, cette idée que ce qui nous empêche d'accueillir cette expérience de bienveillance, c'est la peur de cette bienveillance elle-même. Bon, on y va. Le cours est unique de plusieurs façons, par rapport à plusieurs choses, dont une histoire, une sorte de mythologie qu'il nous présente pour expliquer comment nous sommes venus ici sur Terre et comment la Terre fonctionne. Nous pensons tous, au moins si nous nous adhérons à la pensée de la société ordinaire, nous pensons tous savoir comment ce monde fonctionne et d'où est-ce qu'il vient. Selon le cours miracle, cette pensée est fausse. Elle est très juste pour fonctionner dans cette société. C'est-à-dire, dans cette société, j'ai besoin de connaître les principes de la survie, de la compétitivité, de la mise en valeur de soi, etc. J'ai besoin de ça. Ce qu'on doit apprendre aux enfants, c'est comment fonctionner dans ce monde. Mais les lois de ce monde ne vont pas nous aider à trouver la paix du cœur, la paix du ciel, la réalité, notre réalité définitive, notre véritable identité. Les lois de ce monde sont complètement incapables de nous apprendre sur notre propre réalité et sur le moyen de revenir vers un profond sentiment d'amour et de sécurité. Au contraire, les lois de ce monde nous amènent vers un sentiment d'insécurité et un manque de connaissance de soi, de notre vrai soi. Alors, cette mythologie commence avec l'idée d'une unité parfaite dans une dimension intemporelle, c'est-à-dire en dehors du temps et de l'espace. Et cette unité n'est pas simplement juste une idée d'une totalité tellement unie qu'il n'y a pas de partie séparée de cette chose, de cet être, de cette présence. Nous allons avoir une grande difficulté à vraiment trouver les mots, à articuler cette vision, tellement c'est au-delà de nos concepts ordinaires, c'est au-delà même du fonctionnement du petit esprit. Cet petit esprit qui a été conçu justement pour exclure la connaissance et l'expérience de cette transcendante réalité. Néanmoins, elle est là. Nous allons chercher quelques mots pour l'exprimer tout de même, obligé, parce que dans nos petits esprits, nous avons besoin de concepts. Même si le jour que nous arrivons à dépasser entièrement les confins, les limites de nos petits soi, nous allons connaître qu'une expérience entièrement au-delà des concepts. Pour l'instant, nous avons besoin de concepts pour guider notre pensée vers cette porte. Au-delà du seuil de cette porte, plus de concepts, il n'y a que pure expérience. Donc, premier concept de cette unité parfaite, absolue, qui est aussi un domaine de la plus grande, une dimension de la plus grande paix, amour, sérénité, plénitude, innocence, sainteté, grâce, toutes ces merveilleuses, extraordinaires qualités dont vous avez peut-être même parlé tout à l'heure. Nous pouvons aussi ajouter quelques mots avec une connotation religieuse. Si vous n'êtes pas trop allergique à ceci, c'est-à-dire Dieu, et dans d'autres, c'est immensité peut aussi s'appeler Dieu pour ceux qui n'ont pas peur de ce concept, et je ne voudrais certainement pas que cela soit un obstacle pour vous. pour nous, au moins dans le cours, la véritable totalité de la réalité n'a pas de nom. C'est innommable, innommable. Ça n'a pas de nom parce que les noms n'existent que dans une sorte de dimension de dualité, là où les concepts sont importants. L'un de ces mots qu'on peut utiliser, c'est Dieu, à condition que le mot Dieu, pour vous, évoque quelque chose d'une bienveillance absolument infinie, qui ne connaît pas de limite, qui ne connaît pas d'exclusion, aucune idée d'extériorité ou de division ou de séparation. C'est cela la véritable réalité. Le cours nous dit même, on peut dire Dieu est, l'amour est, avec un A majuscule, la paix est. Et après, on cesse de parler, parce qu'il n'y a plus de mots qui peuvent avoir le moindre signification. Cela n'a pas empêché le cours d'être composé de 1400 pages d'informations pour nous comprendre deux mots. Dieu est. À la fin, nous allons pouvoir ouvrir cette porte et au-delà, on va avoir une expérience de ce qui est. Mais on a besoin de 1400 pages et beaucoup d'ateliers, peut-être d'écoute et de réflexion pour arriver à cette porte pour l'ouvrir, pour avoir une expérience de ce qui est. Maintenant, si ça c'est la réalité, ce n'est pas la réalité que nous vivons tous les jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, voilà, c'est ça l'histoire qui est un peu compliquée à expliquer. Je vais essayer de faire d'une façon synthétique. Il va y avoir quelques paradoxes qui risquent de nous faire trébucher. Donc, je vais essayer de vous faire ce tableau de la façon au moins la plus logique possible. Il semble qu'à l'intérieur de cette unité, une partie de cette unité, ce qui est déjà une sorte de paradoxe, s'est proposé cette idée de se séparer de la totalité pour avoir une expérience d'autre chose. Déjà, on peut dire, mais comment est-ce possible qu'il y ait une partie de l'unité qui peut réfléchir par rapport à l'unité elle-même? En réalité, cela est impossible. Mais c'est un paradoxe que nous n'allons pas pouvoir résoudre avec le petit esprit. Ce n'est qu'avec notre grand esprit que nous comprenons comment il est possible d'avoir, de penser qu'on est en train d'avoir une expérience de quelque chose qui semble possible et réel. Or, en réalité, cette expérience elle-même n'était jamais réelle. On peut essayer d'imaginer une sorte de rêve la nuit. Un rêve la nuit qui, pour nous, est tellement réel, ce n'est qu'à notre réveil le lendemain matin que nous nous rendons compte que tout ce qui a été présent et qui a rempli notre rêve la nuit n'était qu'une pure fiction, une pure illusion qui n'a jamais existé. Les bâtiments n'ont pas existé, les faits n'ont jamais eu lieu, les personnes n'existaient pas. Pourtant, je le vivais comme une telle réalité que ça, mon monde semblait tellement réel à cet instant-là. Ce n'est qu'après que nous pouvons nous rendre compte que tout ce qui me semblait extrêmement réel n'était qu'une pure fiction. Voilà, il paraît que ça, c'est l'expérience que nous allons pouvoir avoir un jour, que nous avons enlevé les obstacles présents dans notre esprit maintenant. Quels sont ces obstacles? Bon, voilà ce qui s'est passé. À l'instant que cette partie de l'unité a eu cette splendide idée de se séparer de l'unité, je dis splendide avec ironie, parce que tout ce qui se sépare de l'amour ne peut plus contenir l'amour par définition. Tout ce qui se sépare de l'innocence parfaite ne peut plus contenir l'innocence parfaite par définition. Tout ce qui se sépare de la plénitude, de la complétude, de l'entièreté parfaite, ne peut plus contenir cette complétude, cette plénitude. Tout ce qui se sépare de la sécurité parfaite, ne peut plus connaître la sécurité parfaite. Pourtant, c'est la belle idée que nous avons eue. Ben tiens, et si on avait cette expérience de nous séparer de cette magnifique unité, et voir ce qui se passe. La difficulté, justement, c'est qu'il y a eu des conséquences absolument dramatiques avec ce choix de vivre autre chose que notre véritable réalité. Parce que cette unité n'est pas simplement une une présence, c'est aussi notre propre présence, c'est notre propre identité, c'est notre propre réalité, pleine de grâce, bienveillance, amour, paix, sérénité, sécurité, sainteté et innocence. Donc à l'instant que nous nous disons, tiens, j'ai envie de connaître autre chose, cette autre chose va manquer par définition de toutes ces différentes qualités. Il va y avoir une absence d'amour, paix, sécurité, grâce, innocence, sainteté, plénitude. Une petite parenthèse ici, je veux vous rassurer qu'à aucun instant est-ce que cette séparation a littéralement eu lieu. Nous y sommes toujours, dans cette perfection, dans cet endroit parfait. À chaque instant, nous sommes tous en train simplement de continuer l'illusion ou le rêve d'une séparation qui n'a jamais eu lieu. Ce n'est pas le fait d'être présent ici physiquement qui fait en sorte que nous nous sommes littéralement séparés de cette présence. Nous avons créé ou fabriqué une représentation de séparation. Mais ce n'est qu'une représentation, ce n'est pas une réalité. Donc à chaque instant, la conscience de cet état de perfection est disponible pour nous, est accessible. Nous pouvons nous souvenir de toutes ces qualités de perfection à l'instant que nous le souhaitons. C'est pour ça le cours, ces leçons qui disent que nous pouvons quitter ce monde à l'instant que nous le souhaitons. Simplement en ouvrant cette porte intérieure, ce n'est certainement pas une question de quitter le corps. Le corps n'est pas une limite à notre expérience de la réalité. Parce que le corps n'a pas pu faire une véritable brèche dans la réalité. C'est comme ça que le cours peut se différencier d'autres spiritualités. Nous n'avons pas besoin de quitter le corps ou perdre le corps pour connaître la vérité, la réalité, parce que cette réalité reste dans notre esprit. Et ce n'est pas le corps qui empêche l'esprit de fonctionner et de garder cette capacité. Le corps n'est pas une limite sur le pouvoir de l'esprit. Et si j'insiste dessus, c'est parce que très souvent, on peut avoir l'impression que tant que je suis dans un corps, je ne vais pas pouvoir connaître cet état exceptionnel. Nous avons adopté, ou nous avons décidé d'adopter ces corps comme une tentative de représenter une séparation avec cette parfaite réalité. Mais cette tentative n'a pas réussi. Ça a réussi uniquement dans mon esprit. Si j'y tiens, si je m'accroche à cette idée de séparation dans mon esprit. Mais c'est certainement pas le fait que je suis dans le corps qui m'empêche d'ouvrir cette porte intérieure et de ressentir cette magnifique air frais venir de l'autre côté. Et le jour que je veux, j'ouvre grandes les fenêtres, les portes, toutes les fenêtres, toutes les portes. Et voilà, ici sur Terre, je peux déjà avoir une expérience de vivre dans ma véritable maison, tout en restant bien conscient d'une expérience corporelle. Ça, c'est une petite parenthèse. Donc, une fois arrivé ici, par contre, et une fois, et souhaitant de tout notre cœur d'avoir une expérience de séparation, nous allons certainement avoir une soi-disant réalité de séparation que chacun connaît comme soi-même. Tout le monde se lève du lit le matin, il se regarde dans le miroir de la salle de bain, il se reconnaît avec la personne en face, et à cet instant-là, il se redonne sa réalité personnelle en dehors de sa véritable réalité. Sa réalité, c'est que son esprit est parfaitement joint avec cette autre dimension totalement unie et unifiée, faite de la plus grande bienveillance, amour, tendresse, unité, perfection, grâce et innocence. Mais à l'instant qu'il se regarde dans la glace, dans le miroir, et il oublie cette réalité non spécifique ou abstraite, si vous souhaitez, il se confine, il se limite à un être physique, et il va oublier tout le reste, et maintenant il va avoir une expérience d'être coupé de ses magnifiques qualités de bienveillance, amour, paix, sécurité, tous ces mots avec les majuscules, innocence, sainteté, plénitude, etc. Et il va se regarder dans la glace, il va se juger avec un regard diminué, il va se regarder avec une perception diminuée de lui-même. Forcément, il s'est diminué en se définissant comme quelque chose qui ne fait plus partie de cette magnifique unité. Il s'est diminué. Je me diminue chaque fois, je me regarde dans la glace et je dis, tu es ceci. Si je me dis dans le miroir, tu n'es que ça, l'image que tu penses être là, effectivement, je me suis diminué. Je peux aussi me dire, tu n'es pas que ça. On ne veut pas dire devenir schizophrène ou psychotique ici. Hein? On ne va pas dire, ah ben tu n'es pas ça. On va dire, tu es aussi autre chose. À ce moment-là, je peux ouvrir, moi je me remets devant cette porte. Mais si j'insiste sans exception, non, tu n'es que ça, comme la plupart des gens qui se lèvent le matin, se regardent dans le miroir, ils ne voient que leur image et disent, je suis ceci, il va se sentir immédiatement coupé de cet amour, de cette bienveillance, de cette douceur, de sécurité, innocence, plénitude, grâce, identité, etc., etc., etc. Sans le savoir, il ne va pas s'en rendre compte. Mais il va se rendre compte qu'il ne se sent pas bien. Il ne va pas savoir pourquoi. Mais il va savoir que dans la journée, il va falloir qu'il fasse quelque chose pour se sentir mieux. Ils ne se sentent pas parfaitement bien dans l'instant présent. Imaginons, je me lève, je me regarde dans le miroir et soudain je me souviens, mais je ne suis pas du tout que ça. Comment l'illimité peut se limiter à juste un corps physique reflété dans un miroir? Mais je dois forcément être aussi plus grande que ça. À ce moment-là, tous mes besoins sont comblés. D'identité, de plénitude, de grâce, d'innocence, si je me souviens de ce que je suis. Mais si je ferme cette porte et je dis non, je ne suis que ça, alors je me sens immédiatement coupé et manquant de toutes ces choses. Il n'y a pas un plus grand acte de méchanceté, de malveillance et de cruauté envers moi-même que me couper de ma propre réalité. Et de fermer cette porte et dire non, la porte est fermée. Tu ne fais plus partie de la famille, de l'amour, de la grâce, de l'innocence, de la perfection, de la sécurité divine. Tu ne fais plus partie de cette famille. Je suis désolé. Tu as claqué la porte et en claquant la porte, tu t'es enfermé dans une prison définitive. Il n'y a plus de recours maintenant. Plus de possibilités. Tu as fait une chose tellement horrible, en fait, en claquant cette porte à ta réalité, que maintenant, tu seras accablé à jamais avec un lourd sentiment de culpabilité et de honte pour le crime que vous avez commis contre la réalité. Tu te rends compte de ce que tu as fait. Tu as souhaité te couper de la réalité, de ce magnifique endroit que le Créateur a créé pour toi, cette magnifique unité. Et en ainsi faisant, tu as diminué l'unité. Tu as même voulu la mort de l'unité, la destruction totale de la perfection, pour que toi, tu puisses avoir ton expérience de la séparation, de l'individualité. Mais quel égoïsme, tu te rends pas compte. Et je peux te garantir maintenant, dit notre ego, notre petit soi, qui a envie de continuer à s'éclater dans cet état de séparation, tous tes jours et toutes tes nuits, tu seras hanté par un sentiment d'être diminué, d'être noirci, d'être entaché de cette erreur, de cette faute grave. qui va t'empêcher à jamais de revenir vers la source d'amour pour connaître à nouveau ce qui était ta véritable demeure. C'est fini. Ainsi part cet ego, cette petite partie de nous qui veut continuer son expérience de la séparation. Tout est absolument faux à chaque instant. Il n'y a même pas de porte. Le ciel est absolument ouvert à chaque instant. Nous avons fabriqué une idée d'une porte qui peut se fermer. La porte n'est pas simplement ouverte, il n'y en a même pas. Cette réalité parfaite est autour de nous à chaque instant. Nous n'avons pas pu nous tromper plus que se dire, que nous dire que maintenant c'est fichu, je suis ici, pas rien à faire. Ah ben là, si tu savais, mon pauvre, ce que j'ai fait, ah, c'est irrémédiable. Je ne peux plus rien faire. Ma vie est fichue. Et chacun a sa façon de se raconter une histoire de souffrance, de séparation, de diminution, de mépris, de blessures, de problèmes, de difficultés. Et dans chaque histoire, il y a une partie de honte, de culpabilité, d'attaque, de victime, d'agression, de manque d'amour, de manque de tendresse, manque de sécurité, etc., etc. Dans l'histoire de chaque personne, il y a des éléments de cette histoire mythique de séparation et de division avec la véritable réalité qui est sous-jacente à chaque instant. Mais chacun va se lever chaque matin, se regarder dans le miroir, et il va insister sur son histoire. Son histoire de perte, de manque, etc. Chaque personne va continuer à chercher des solutions à sa douleur. Et les solutions à sa douleur seront composées des tentatives de se rassurer dans la journée que tout ne va pas si mal que ça, que son identité n'est pas vraiment si menacé que ça, parce qu'après tout, il suffit juste d'aller au travail. Déjà, le fait d'avoir un travail, d'avoir un rôle social, d'avoir des relations, ça me donne une identité. D'accord, je comprends, j'ai perdu mon identité, ma véritable identité avec une I majuscule. Je ne fais plus partie du ciel, mais je m'en fous. C'est pas grave. Tu sais pourquoi? Moi, j'ai des copains. Moi, j'ai des copines. Moi, je sais qui appeler quand j'ai un problème. Et je sais d'où je viens. Je sais où je vais. J'ai une passé, j'ai une histoire. Je me dis, en parlant de, je ne sais pas, une sorte de dieu mythique que j'ai créé dans mon esprit. Toi, tu as ça? Tu connais tes parents? Moi, je connais mes parents. Je sais d'où je viens, moi. J'ai maintenant mes parents, j'ai des enfants, j'ai des frères, j'ai des sœurs, j'ai des oncles, j'ai des tantes. J'ai la société autour de moi. Je n'ai pas besoin de ton identité avec mes majuscules. Non, je me contente, je sais bien faire ma vie ici. Et quand je sens un manque dans ma vie, ta plénitude, tu peux la garder. Non, je t'inquiète pas, je fais très bien de ma vie, oui. Tu me dis que les portes sont fermées à cause de ce que j'ai fait, et j'ai plus ta plénitude, t'inquiète pas, je sais me débrouiller. J'ai un rendez-vous à midi, à mon restaurant préféré. Je sais exactement le jour où vous allez pour avoir le mic. Chez nous, c'est le mic. Je ne sais pas chez vous. Vous ne connaissez même pas le mic. Ah oh là là là. Vous n'avez pas mangé. Le mic, c'est une sorte de pot-au-feu. Voilà. Dans notre région, c'est mythique. Aussi mythique que l'unité. Ouais, d'ailleurs, sur la carte, des fois, c'est marqué unité ou mic. Mais après, ils suppriment unité, ils mettent que mic. Et c'est une espèce de pot-au-feu. Petit salé.
Du pain cuit dans le bouillon de la viande. Des légumes.
Bah, je ne sais pas pourquoi, les gens, ils sont raffolent. Poté. Ah ben voilà, c'est vous, c'est le poté.
Oui.
Un poté. Un poté bretonne.
Non,
le poté, d'accord. Il y a un plat ici, bon, de toute façon.
Une espèce de poté bretonne.
Une galette. Là
Kika.
Kika farce. Ça, c'est un plat. Et c'est bon.
C'est le pot au feu breton.
Kika farce. Ça se dit comme ça? Bon. Très bien. Bon. Vous dites adieu. T'inquiète, Ta plénitude, ta complétude, tu peux la garder. Moi, j'ai le kick à farce. Je serai très satisfait. Un bon café après kick à farce. Ah, avec mon kunyaman. Et ma journée est réglée. Complétude, plénitude, je m'en fous. Tant que j'ai un kick à farce et un kunyaman avec un bon café, je suis au ciel. Aux anges. Il me manque à rien. Surtout que je vais manger avec mes potes, mes amis, de longue date avec qui je sais, je vais bien m'entendre parce que je peux te raconter ma vie avec eux. Et ils sont d'accord avec moi. Et ils vont me raconter leurs histoires et je serai d'accord avec eux. Et on va se raconter des histoires par rapport à la vie, la société, les gilets jaunes. Et on sera tous d'accord. On va juger, on va critiquer, tout ça. Et, ah, ça sera sympa. J'attends avec si grand plaisir. Un coup, en plus, je connais les serveurs, la patronne et tout. Ma journée de plénitude, c'est déjà réglé d'avance. Pareil pour toutes les autres questions de relations, d'intimité. J'ai mon épouse, j'ai aussi mes copains, comme j'ai dit. Pour reconnaissance, j'ai le travail, ou j'ai ma famille. Pour un sentiment de valorisation, toute la valorisation que j'ai perdue au ciel, j'ai mes amis, mes relations particulières. J'ai aussi mon travail, ça me valorise, j'ai ma place dans la société. Côté valorisation, côté reconnaissance, côté identité, j'ai réglé tout ça. Côté plénitude, je suis en train de travailler dessus. T'inquiète pas, j'ai un bon espoir que ça sera réglé. Si c'est pas cette semaine, c'est l'année ou le mois prochain, ça sera l'année prochaine. J'ai des très très bons projets et quand ça réussit, je vais savoir que j'ai eu tout ce qu'il me faut ici pour être pleinement heureux.
Et sinon rien de tout ça.
Est-ce que vous voyez un petit souci avec mon projet de trouver le bonheur sur Terre, le bonheur dans l'individualité? Est-ce que vous voyez un petit souci? Quel est ce souci?
La dépendance.
Dépendance. Ce qui veut dire?
C'est-à-dire l'attachement en fait à tout ce qui nous entoure.
Donc l'attachement. Donc tant que ces choses-là restent en place et me satisfassent, ben, satisfont, tout va bien. Mais, c'est ça le problème.
Il y a la
mort, c'est un petit bémol. La mort, c'est un petit détail.
Mais
qu'est-ce qui se passe le jour que mes potes ne sont plus disponibles pour manger avec moi? Ou que j'ai le grand ami que j'ai compté dessus, le rendez-vous à midi et demi, je suis installé, je suis prêt à commander. Et midi 30, je reçois un SMS, je suis désolé, je suis coincé, je peux pas venir. Et là, je me trouve tout seul au restaurant. En plus, j'appelle mon serveur préféré, Miguel. Où est-ce qu'il est, Miguel? Ça, c'est pas très breton, ça, non. Par contre. On a quelques Miguel chez nous, mais bon. Qu'est-ce qui est très breton?
Loïc Fanche.
Fanche? Loïc Fanche. Oui, Loïc. Ah, désolé, il y a une tête que je ne connais pas. Ah, Loïc n'est pas là. Ah, vous êtes qui? Ça ne te concerne pas. Il est moins gentil. Et le kick à farce a été remplacé par un mic. Mais c'est quoi ce truc? Mais je veux pas ça, je veux pas une pâte bouillie dans l'eau. Ça peut pas être bon. Mais j'ai pas Loïc, j'ai pas le copain, et j'ai pas mon plat préféré. Et le Queen Yaman a été remplacé par un nid flottante. Alors, mon bonheur sur Terre, il est parti par la fenêtre. Il n'y a plus de bonheur sur Terre. Ce qui peut arriver, et comme Brigitte elle dit, qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui n'ont rien de tout cela? C'est-à-dire, cette Terre, ce plan de la séparation, n'offre pas toujours ce que nous voulons. Comment faire? Comment trouver le moyen d'être heureux dans un monde qui ne va pas forcément nous offrir tout ce qu'il nous faut, ou ne peut pas nous l'offrir constamment et toujours comme nous le voulons, parce que nous avons beaucoup, beaucoup de différentes caractéristiques et de définitions que nous donnons à ce qu'il nous faut. Et cela change aussi. Je veux que tu sois comme ça. Et on se marie avec la personne de nos rêves, peut-être, ou à peu près. Et la personne change. Mais attends, ça, il y a 5 ans, quand même, tu étais plus gentil. Tu étais plus généreux, tu pensais un peu plus à moi, tu t'intéressais un peu plus à moi. Il dit, bah oui, mais j'ai changé, c'était avant. Et toi, tu as changé aussi. Ah oui, d'accord. Les gens changent. Ouais. Est-ce que notre amour reste toujours pareil? Les choses changent. Le monde ici est absolument instable. Nous avons cherché une solution à nos problématiques intérieures en cherchant à l'extérieur. Il y a une problématique intérieure qui s'ancre dans mon esprit dès que je me lève le matin et je me regarde dans le miroir. Et je me définis en tant qu'un être individualisé et séparé d'une sorte de source. Je dis, tu es ça. La problématique s'installe dans mon esprit à cet instant-là. Parce que je me coupe de la possibilité de me souvenir d'autre chose, de cette autre chose que je suis. Il y a un problème intérieur. Je vais chercher les solutions extérieures à mon problème intérieur au lieu de chercher à résoudre le problème intérieur par les moyens adaptés au problème. Je vais utiliser les moyens inadaptés en cherchant à l'extérieur pour résoudre mon problème intérieur. Et c'est pour ça que ça ne peut pas marcher. L'extérieur ne peut jamais satisfaire mon intérieur que très furtivement. Seulement très très furtivement. Et d'une façon éphémère et superficielle. C'est-à-dire, je me leurre que je suis vraiment satisfait après mon repas, avec les amis, à manger le bon plat, à me faire servir par le serveur qui m'apprécie bien. Mon café, exactement. Je me leurre quand je dis à la fin que je suis très satisfait. Comment savoir que je me leurre? C'est très facile parce que le lendemain, il faut que je répète le même exercice. Et le jour d'après, et le jour d'après. Et c'est sans cesse, c'est à un moment. Je vais me lasser aussi de ce restaurant. Je vais même me lasser d'un kick-a-fass. Si c'est possible. Je vais me lasser de Loïc. Je vais même peut-être me lasser de mes amis, et peut-être même de mon époux et mon épouse. C'est comme ça que je sais que ce n'est pas une bonne solution. Nous faisons tous face à un conflit à l'intérieur que nous essayons de résoudre avec les moyens complètement inadaptés. Pire, le conflit n'existe même pas. Il n'y a pas de véritable conflit à l'intérieur de moi parce que je fais toujours partie de cette magnifique unité intérieure. C'est moi qui dis que non. C'est-à-dire, je fabrique un conflit qui n'existe pas. Et par la suite, j'essaie d'utiliser les moyens complètement inadaptés pour résoudre un conflit qui n'existe pas. Et on nous appelle Homo sapiens. C'est-à-dire la race, l'espèce qui connaît. La connaissance, le sapiens, c'est la connaissance. C'est même Homo sapiens sapiens. Oh là 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 là, l'arrogance. L'arrogance.
Et quelle est la partie alors de l'être humain, de notre sacré Homo sapiens sapiens, quelle est la partie, divine qui décide alors si on va avoir connaissance ou pas? Là, en quelque sorte, on a un décodage maintenant. Donc, on peut agir, on dit ok, maintenant je sais, on l'apporte, ceci, cela. Mais sur les 7 milliards d'êtres qui viennent, qui s'incarnent, est-ce que c'est au départ qu'on décide d'aller vers une ouverture qui se fera à tout âge dans notre vie, ou qu'on sera fermé? Il y a des êtres humains qui n'auront aucun accès par leur façon de vivre, par leur lieu de vie. Quel est le but à ce moment-là? Sans décodage, qu'est-ce qu'on fait?
En réalité, vous avez choisi des voies d'étudier de spiritualité, de venir ici. Vous considérez peut-être même chanceux de pouvoir le faire, d'être dans un pays ouvert avec des moyens. Mais en réalité, chaque être, peu importe sa circonstance, son histoire, même sa culture et son pays, contient la solution à son problème. Chacun peut se souvenir que ce... Il peut, prendre conscience et se souvenir et savoir que ce qu'il voit n'est pas toute l'histoire. Il peut avoir un doute parce que cette information reste innée en chaque esprit. Je ne dis pas forcément que c'est facile. C'est aussi que la personne qui s'incarne, par exemple, dans un pays comme l'Arabie Saoudite, peut-être il l'a fait justement pour ne pas pouvoir accéder à cette prise de conscience intérieure. Néanmoins, même en ayant grandi dans un tel pays où il y a une telle emprise sur l'esprit de chacun, il peut se souvenir, même au sein de sa spiritualité qui est l'islam, il y a une possibilité d'un souvenir d'un Dieu pur d'amour qui ne connaît aucune exception. C'est pour ça qu'il y a aussi des êtres dans toutes les traditions, dans tous les pays, qu'on peut considérer comme des sages, les personnes qui ont vu au-delà de l'apparence. Dans chaque pays, il y a ce qu'on appelle les sages, qui contient une sorte de savoir ou connaissance intérieure. Et ils ont pu dépasser leur héritage culturel, héritage spirituel, héritage religieux, pour suivre une sorte de fil conducteur intérieur qui est intégré dans l'esprit de chacun. Personne n'est dépourvu d'un moyen de se souvenir de la réalité, de sa perfection, de la perfection qui nous entoure. Ça sera impossible d'enlever cette qualité, ce pouvoir de l'esprit de chacun. Pourtant, il y a des gouvernements qui essaient de le faire. Hein? Comme en Chine, comme dans d'autres pays, il y a des pays qui essaient d'écraser notre spiritualité, notre indépendance spirituelle, complètement. Mais ils ne peuvent jamais le réussir entièrement. Ouais. Juste pour finir notre histoire maintenant, c'est pour savoir, ce qu'on doit apprendre avec cette histoire, c'est que le monde que nous voyons autour de nous est rempli de personnes qui contiennent maintenant un conflit intérieur extrêmement puissant. Ce conflit, c'est le sentiment, ou un stress. Si on n'aime pas le mot conflit, on peut penser au mot stress ou tension existentielle. Ce qui est de penser qu'il est exclu maintenant, exilé de sa véritable demeure, de sa propre réalité, qu'il n'y a aucune chance de revenir en arrière, que l'endroit d'où on vient est maintenant occupé d'une sorte de juge. Si avant cette présence équivalait à une sorte de parent céleste de la plus grande bienveillance, ce parent céleste, ce parent divin est maintenant devenu un juge rempli d'une envie de se venger pour ce que nous lui avons fait. Chaque personne ici est rongée par ce sentiment de mal-être extrêmement puissant qui est un sentiment de culpabilité et de peur pour ceux qui pensent avoir fait, qui est complètement imaginaire, mais qui garde et l'entretient. C'est essentiel à sa survie particulière, de sa particularité, de la singularité de son être individuel, individualisé. Chaque jour que chacun se lève ici, il a besoin de concrétiser cette division, cette séparation dans son esprit pour le garder en place. Si jamais il lâchait prise sur ça, il va soudain ouvrir cette porte, il va se rendre compte qu'il fait partie d'autre chose, il n'est pas tout seul. Donc il le garde en place comme une chape, ce sentiment de séparation, ce qui est accompagné bien sûr d'un manque d'amour, d'un manque de reconnaissance, manque de plénitude, etc. Il le garde parce que ça fait partie, c'est le tissage de sa particularité, de son individualité. Il ne peut pas garder fixe en place son sentiment d'être un être coupé de sa source sans garder les sentiments de culpabilité, de manque, de culpabilité, de conflits intérieurs, de violence, d'exil, d'abandon, de manque d'identité, d'un sentiment d'être diminué et même méprisé. Il ne peut pas le garder. Dès l'instant qu'il met tout cela en question, il commence à retourner vers cette porte et va commencer à ressentir une sorte d'air frais qui vient de l'autre côté, ou en dessous de la porte. Et il va se dire, mais ça peut, je suis sûr qu'il y a un problème dans ma logique. Je suis sûr qu'il y a un problème dans ma logique. Donc, il s'empêche de le faire. Et il reste avec sa position. C'est-à-dire, on reste avec le manque de bienveillance dans notre vie pour nous protéger de notre véritable réalité. Dès l'instant qu'on lâche le contrôle, qu'on lâche l'intensité de notre agressivité envers nous-mêmes, nous ouvrons, nous commençons à rouvrir cette porte vers cette bienveillance, vers cet amour, cette tendresse. Et à ce moment-là, notre particularité commence à avoir peur. Peur de se perdre. Peur de ne plus se connaître, parce que nous avons tous pris l'habitude, nous avons l'habitude maintenant de notre petit être. Quand nous commençons à être gentils avec nous-mêmes, et profondément gentils avec nous-mêmes, nous ne nous reconnaissons plus. Mais ce n'est pas moi. Moi, je n'ai pas l'habitude d'être comme ça avec moi. Oui, mais c'est une autre partie de toi. Bah oui, mais le moi que je connais, c'est pas tout à fait ça. J'ai toujours été dans une sorte d'amertume ou nostalgie, j'étais lourd, j'étais accablé. Oui, je faisais une sorte de bonne mine pour tout le monde, mais au fond de moi, il manquait quelque chose. Et j'étais toujours dans une sorte d'agressivité et tout, j'étais ronchon, j'étais jamais content. Ça, je connais. Ça, c'est moi. À un niveau ou un autre. Mais dès que je commence à être authentiquement bienveillant, ça tranche tellement avec tout ce que j'ai été que je peux commencer à me soupçonner que cela va m'emmener vers une autre identité, vers un autre moi, qu'on appelle, peut appeler le grand soi ou le grand moi. Le problème, c'est là où on entre dans la partie dilemme de cette affaire. Plus j'avance vers la bienveillance, vers mon être magnifique qui partage cette unité splendide, moins je vais ressentir ma particularité, ma petite vie individuelle. Je vais devoir faire, entre guillemets, le sacrifice de mon petit être, tous mes souvenirs du passé, toutes mes blessures, pour pouvoir ouvrir cette porte de la bienveillance et à la fin, l'embrasser comme ma véritable réalité. Le dilemme, c'est que je veux la séparation, mais je veux le bonheur aussi. Je ne peux pas l'avoir. Je veux la séparation, je ne peux pas être heureux dans la séparation. Je peux prétendre d'être heureux, sans problème. Je peux avoir une sorte de bonheur superficiel, sans problème. Mais je ne peux pas avoir le véritable bonheur profond en gardant une image de moi comme étant coupé d'une sorte de source mystique et divine et en étant coupé des autres. Je ne peux pas connaître le vrai bonheur parce que ce bonheur avec un B majuscule se partage. Il se partage et il est partagé avec une totalité, avec un tout, avec tout le monde et avec une source intérieure. Une source tout autour de nous à chaque instant. Dilemme, c'est le dilemme de ma vie, c'est le dilemme de la vie de chacun. Et tous les jours, je vais essayer de résoudre ce dilemme par les mauvais moyens. Je vais essayer d'être séparé et heureux. Je vais essayer de garder mon individualité et aller vers la source. Cela ne marche pas. Un jour, on doit... Et c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Nous allons devoir faire face à ce dilemme et savoir que si nous voulons avancer vers la véritable bienveillance, un véritable sentiment d'amour profond, nous allons devoir remettre en question l'ensemble de notre petite vie de particularités et de ses histoires. on ne va pas pouvoir accueillir et être accueilli par cette magnifique bienveillance en gardant toutes nos histoires. Parce que cet amour ne connaît pas nos petites histoires. Voilà le cœur du sujet, le cœur de la difficulté. Et c'est pour ça que nous pouvons d'un côté savoir ce que nous devons faire et de l'autre côté faire exactement l'inverse. C'est parce que quelque part dans notre esprit, nous savons que si nous pratiquons cette forme de bienveillance pure envers les autres et envers nous-mêmes, quelque part on est en train de sacrifier notre souffrance et nos histoires personnelles. Je dis sacrifier avec ironie et une certaine ironie et avec des guillemets. Parce que comment est-ce que cela peut être un sacrifice d'accueillir une bienveillance qui peut guérir tout notre mal-être et nos blessures? Ça ne peut pas l'être. Mais dans notre confusion de séparation, nous pouvons effectivement penser que la bienveillance est bien, mais malheureusement, il risque d'enlever mon expérience personnelle de ma situation. Le jour ou l'instant que j'accepte cette bienveillance pour moi-même, c'est fini avec mon amertume. C'est fini avec mon agressivité, ma frustration, mon impatience. Ça sera fini. Est-ce que je suis prêt à accepter la fin de tous mes problèmes, de mon impatience, ma frustration, les manques, sentiment d'insatisfaction avec la vie, sentiment d'insatisfaction avec les gens autour de moi, mes partenaires? Est-ce que je suis vraiment prêt à accepter ça? Ça, c'est les bonnes questions. Et la réalité n'impose aucun délai sur notre acceptation de la bienveillance. Il veut juste qu'on commence à se poser des bonnes questions pour qu'on puisse commencer enfin à avoir une chance d'être plus heureux. Et si on reste malheureux, il n'y a aucun problème, au moins on va savoir pourquoi. Ce n'est pas à cause des autres. C'est parce que quelque part, je ne veux pas y aller. Pourquoi? Parce que j'ai peur de l'amour. C'est simplement peur de l'amour, et comme notre cher professeur Kenneth nous disait tout le temps, ce n'est pas un péché d'avoir peur de l'amour. Ce n'est pas un problème d'avoir peur de l'amour. Il dit, ce n'est pas forcément la chose la plus intelligente de garder cette peur de l'amour, mais ce n'est pas un problème, ce n'est pas un péché. Il dit juste, on a besoin de temps. Mais voilà, je crois qu'on est déjà à midi et demi. Oui, on est déjà à midi et demi, passé même. Donc il va falloir qu'on fasse notre pause pour midi.